Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la Résistance.
Libradio, www.libradio.org.
Donc nous sommes le 7 mai, lundi 7 mai 2018, à la maison de quartier de Saint-Jean à Genève, à l'occasion d'une rencontre avec des personnes de la ZAD qui sont présentes devant moi pour parler. Alors le sujet de la présentation, ce sera la souveraineté alimentaire, mais nous voulions à cette occasion-là parler un petit peu de la ZAD, revenir un petit peu sur ses origines et sur son actualité. Alors peut-être une première partie justement sur d'où vient la ZAD, ce que signifie l'acronyme ZAD, qui se situe pour celle-là à Notre-Dame-des-Landes, donc près de Nantes, et qui concerne cet aéroport depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis ensuite, on reviendra sur l'actualité, parce qu'on sait que récemment, on a vu qu'une résistance, enfin une volonté de délogement, pour le moins illégitime à court, et qu'en face, on a une résistance qui s'organise, qui est extrêmement opérationnelle, même si peut-être qu'à l'intérieur de la ZAD, il se trouve qu'il y ait des dissensions. Mais on verra ça après. Alors, Camille et Camille, merci de consacrer quelques minutes à cette discussion. Peut-être voudriez-vous vous présenter vous-même à l'aune de la ZAD. Est-ce que vous y résidez depuis quand? Qu'est-ce que vous y faites en quelques mots? Alors, qui commence? Camille.
On commence par Camille qui habite sur la ZAD.
Alors, moi, j'habite à la ZAD depuis 2 ans. Depuis 1 an, j'habite au Sans Nom, qui est un des lieux qui a été détruit pendant les dernières expulsions, là, le 9 avril. Voilà, c'était une ferme sur laquelle il y avait des moutons, du maraîchage, on produisait des légumes pour nous et pour d'autres événements sur la zone. Moi-même, j'avais là-bas un projet d'atelier de poterie céramique. Et voilà, sinon on est 8 membres dans le collectif. On a bientôt prévu de se réinstaller sur zone suite à la destruction de notre lieu de vie. Et voilà, on a un trou. Ouais, donc on a les moutons, le maraîchage et ensuite chacun des habitants est impliqué personnellement dans d'autres activités sur zone, que ce soit des activités agricoles ou d'autres.
D'accord. Ça me permet de te poser quelques questions rapidement pour clarifier également le site et le type de personnes qui sont sur place. Pourrais-tu nous décrire en quelques mots la surface? Quelle est la surface de la zone à défendre? Combien y a-t-il de monde à la louche à peu près? Et quels sont les corps de métier qui sont opérationnels?
La question, elle est vaste. La zone, elle fait... Donc la zone concernée par le projet d'aéroport, elle fait 1600 hectares. Donc ça fait environ 8 km sur 2,5 ou 3. Sur cette surface-là, il y en a 300 qui sont squattés par le mouvement d'occupation, plus les forêts. Et... Donc c'est un bocage, donc des champs qui sont relativement petits par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans toute l'agriculture conventionnelle qu'il y a partout. Par exemple, les Sans-Noms, c'était un champ d'un hectare et demi, et c'était un des grands champs. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus petits qu'un hectare des terrains. On est combien? Savoir combien de gens y habitent, c'est toujours hyper difficile, mais on dit en général entre 200 et 300. Ensuite, ça varie beaucoup entre l'été et l'hiver. Et aussi, il y a toujours beaucoup de personnes en visite. Donc, ça peut monter jusqu'à 1000 en été, si on compte toutes les personnes en visite. Et il y a beaucoup plus, par exemple, là, ces dernières semaines, avec les expulsions, je pense qu'on était... 10 000, 15 000, voilà.
Ok. Et les corps de métier qui sont là-bas? Alors, il y a beaucoup de... Tu as parlé de maraîchage, donc des gens s'occupent des champs. Il y a également... Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Déjà, vu qu'il y a des centaines de personnes qui y habitent, chacun arrive avec son bagage personnel. Donc, il y a de tout type de corps de métier. Ensuite, il y a... Par exemple, dans les gens qui sont installés en tant qu'agriculteurs conventionnels, enfin... C'est-à-dire qu'ils sont déclarés auprès des services de l'État. Il y a un brasseur, un paysan boulanger, un producteur de lait. Et c'est qui le dernier, c'est, a... c'est les plantes
Oui, il y a des plantes, oui. Il y a les plantes aromatiques.
Ouais.
Donc ça, c'est une ferme à part entière maintenant. Hein. Mmh. C'est une petite ferme.
Je pense qu'il y a aussi, il doit y avoir des menuisiers ouais. ou des personnes qui travaillent.
Il y a des menuisiers, il y a des charpentiers, ouais. Il y a des forgerons, il y a tout. Enfin, il y a une bibliothèque, ouais. il y a une radio, il y a une maison d'accueil pour les gens qui arrivent avec des enfants et un projet de crèche. Enfin, c'est vraiment hyper dense et hyper chargé.
Voilà,
en fait.
On peut dire qu'il y a une effervescence constamment et que donc on est aux antipodes des images qui sont des fois retransmises, qui seraient celles d'une bande d'oisifs qui traînent là comme ça. En fait, à l'inverse de ça, il y a une volonté de se réapproprier la terre et de la vivre autrement. Ça, on peut le dire, d'accord. Concernant les...
Je voudrais juste quand même te dire que c'est qu'il n'y a pas un boulanger sur la zone, il y a trois boulangers. Et c'est important parce que le pain, c'est nécessaire à tout le monde et c'est toujours l'alimentation de base. Donc il y a quand même trois boulanges et ça représente plusieurs centaines de kilos de pain fabriqués par semaine.
Ouais, très bien. Bah, c'est bien de préciser.
Donc c'est trois boulangeries. Donc moi, je nommais donc une personne qui est installée en tant que paysan boulanger. Mais c'est vrai que lui, donc, il a une production de pain qui est dédiée à la vente dans les marchés locaux à l'extérieur. Mais oui, il y a deux boulangeries qui fonctionnent en collectif. Qui produisent du pain qui sert principalement aux habitants, en fait.
D'accord. On va doucement arriver aux origines. Hein, quelques mots sur d'où ça vient que cette ZAD, donc zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. J'aime bien. Enfin, tiens. J'avais encore une petite question concernant le fait que ce soit ou pas poreux. Parce qu'on sait qu'il y a la police un petit peu autour. Alors, est-ce qu'il y a... une porosité qui se fait avec les personnes, les habitants des environs, et comment ceux-ci vivent-ils la présence des zadistes sur cet espace-là, Notre-Dame-des-Landes?
Il est mieux placé que moi pour répondre.
Alors, c'est Camille qui va nous en dire un mot, et puis ensuite on reviendra avec toi justement lors de ta présentation sur les origines de la ZAD. Alors, qu'en est-il de ce voisinage? Est-ce un bon voisinage?
Je pense que c'est comme partout, il y a un peu de tout, mais en règle générale, on peut quand même dire qu'il y a au moins une commune qui est sans doute en bon voisinage, c'est Notre-Dame-des-Landes en particulier. C'est quand même des gens qui, à chaque élection territoriale, votent toujours écolo parce qu'il y avait ce problème d'aéroport. Donc c'est des gens qui, même s'ils ne soutiennent pas à 100%, sont quand même un soutien moral important, quoi. Bon, après ça, il y a deux autres communes où c'est moins prononcé, mais ça évolue. Parce que dernièrement, même la commune la plus dure, si tu veux, Vigneux de Bretagne, ça a changé. Il y a des gens qui se sont proposés de mettre des banderoles, des choses comme ça, s'il y avait intervention policière. Donc les choses changent, évoluent, et dans le bon sens. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, hein, qui viennent, malgré les combats, c'est un grand mot, mais malgré ce qui se passe entre les flics et l'intérieur de la ZAD, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de tous âges, et c'est très intéressant.
Alors, de tous âges et de tous espaces, il me semble qu'il y a des cortèges de solidarité qui s'organisent à des moments clés. Ça a toujours lieu actuellement, par exemple?
C'est moins prononcé encore pour l'instant que ce qui s'est passé en 2012-2013, mais il y a des tentatives. Enfin, c'est moins prononcé. Il y a un début d'organisation, mais il n'y a eu que 10 jours de gros combats et il n'y a que 3 semaines d'occupation militaire. En 2012-2013, ça a quand même duré 6 mois, donc il y avait une espèce de rodage qui s'était fait. Et effectivement, ça venait en masse et en convoi, quoi.
D'accord. Selon toi, il y a une stratégie de la tension et il y a une implémentation de la répression en ce moment. On sent qu'il y a une agressivité qui est vraiment présente tous les jours et qui augmente.
Oui, on a un gouvernement qui est très, très autoritaire, bien plus que celui que le précédent. Et donc, ils ont essayé de mettre un gros coup au départ. Ils ont effectivement quand même réussi à prendre un bout de la ZAD et à tout casser dedans. Mais en 2012, ça avait été aussi le cas. Mais la réaction a été plus vive et plus rapide. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas pu aller vraiment au bout de ce qu'ils souhaitaient, quoi.
D'accord. Alors, revenons-en maintenant aux bases de ce conflit. Donc, c'est né dans les années 70. Hein. L'aéroport devait être l'aéroport de Nantes-Atlantique. devait avoir une extension.
Déménager.
Voilà, un déménagement complet.
Carrément, oui, à Notre-Dame-des-Landes à l'époque. Bon, c'était. Alors, pour la petite histoire, les politiciens de l'époque, comme en 1944, il y avait eu une piste à Notre-Dame-des-Landes, une piste en fer pour poser des tout petits avions de reconnaissance américains, ils pensaient que si les Américains avaient mis quelques bouts de ferraille là pour poser des petits avions, c'était le lieu extraordinaire pour faire un aéroport international. C'est démarré comme ça. Hein. Alors, ouais. Tu vois, faut pas être intelligent, mais enfin bon, bref. Et depuis, il y a eu deux DUP de suite qui sont tombés. Et la troisième DUP est donc repartie en 2000 avec le gouvernement Hérault. Jospin, voilà, avec le gouvernement Jospin, aidé de l'écologiste Dominique Voynet, qui ont signé la troisième DUP.
La DUP, qu'est-ce que ça signifie ?
Déclaration d'utilité publique.
D'accord. Okay. Voilà. Et depuis cette époque-là, y a-t-il des dates un peu jalons comme ça dont on pourrait citer ? Alors, effectivement, 2007, si je me trompe, c'est la première occupation. Mais avant cela, y avait-il eu déjà des moments un peu clés comme ça qui ont interpellé les gens ?
C'est-à-dire que jusqu'aux années 2000, le tissu social était complet sur la zone. Il y avait juste eu des achats qui se faisaient, puisque le Conseil général préemptait les terres, donc, et les maisons, etc. Donc, tu étais obligé de vendre au Conseil général. Mais jusque-là, il y avait un tissu assez important. Mais depuis, petit à petit, les gens ont vieilli, sont arrivés à la retraite, ont déménagé pour X raisons, etc. Donc, la zone se vidait. Et effectivement, en 2007, il y avait eu un premier rappel qui a été relancé en 2008, au camp climat par les derniers habitants de la zone qui étaient du coup peu nombreux pour que des gens viennent s'installer là et faire un peu nombre quoi.
Je comprends.
Et ça la lutte a démarré comme ça.
Très bien. Et la lutte, quand elle a commencé, quelles étaient les personnes en place? Je veux dire, qui a convergé dans cet espace-là? Est-ce que tout de suite, ces corps de métier artisanaux, ce fait d'interroger vraiment le rapport qu'on a à la terre et tout, est-ce que c'est tout de suite né comme ça ou pas? Et que c'est cette évolution ensuite.
Les gens sont d'abord venus occuper, ouais. Carrément occuper, pour, voilà, pour être là, pour soutenir, pour aider, pour lutter contre les premiers forages. Voilà, c'était le début de la lutte, complètement. Et en 2012-2013, on a eu alors là, une occupation encore un peu plus importante, avec des gens qui, du coup, voyant que le combat n'allait pas être gagné par le gouvernement du premier coup, on commençait à dire, mais on est là, mais du coup, on va pas rester les bras ballants à attendre les foreuses ou les machins. On va commencer à faire quelque chose. On va commencer à améliorer nos cabanes. Parce que les trois quarts, au début, les trois quarts, ils vivaient dans des tentes ou dans des maisons qui avaient été squattées, mais il n'y en avait pas tant que ça, quoi. Donc, tu vois, c'était vraiment la base, le début de la lutte. Et après, ils ont commencé à s'installer, ils ont commencé à vouloir se nourrir, et voilà, ils ont cherché à apprendre, et ils ont commencé à eux aussi demander du soutien différent, du coup, pas de l'occupation de la zone, mais du matériel, enfin tout un tas de choses, quoi, pour pouvoir commencer à vivre.
Okay.
Et à atteindre une certaine autonomie.
La notion même de ZAD, de zone à défendre, elle est née tout de suite, elle également, ou pas? Ou c'est venu après?
Non, c'était très simple, hein, puisque la ZAD, c'était zone d'aménagement différé.
Voilà,
donc, c'était
voilà,
très simple. Il suffisait juste.
Voilà. Non, mais c'est intéressant de le dire. Voilà, c'est en fait c'est un truc un peu situ, hein, de détournement comme
voilà.
Ça. De
c'est-à-dire que en France, si tu veux, il y a plein de gens qui font des. Il y a plein de zones d'aménagement différé un peu partout, quoi. Les politiciens, ils se mettent des terres de côté pour pouvoir faire leur petite zone industrielle, leur petite merde, leur petit machin, leur petit bidule. Et donc, tout ça, ça s'appelle des zones d'aménagement différé. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont réservées, mais il se passe rien dessus pendant des années, voire des décennies.
Et faire approprier en zone à défendre pour celle-là.
Pour celle-là, voilà.
Alors, pourquoi celle-là et pas ailleurs? Est-ce que là, il y avait un tissu, justement, qui était propice à ce que la lutte surgisse? Ou comment est-ce que tu expliques que ce soit né là et pas ailleurs? Il y en a d'autres, hein. Il y a Roibon, effectivement.
Mais oui, mais après, tout le monde ne revendique pas de sa plaisade, et d'une. Et celle-là, du coup, c'est une lutte qui est très vieille, quand même. Hein. Elle a commencé avant la lutte du Larzac, tu vois. Donc, c'est quand même une lutte qui est très vieille. Les gens qu'occupaient à un moment donné, il a fallu montrer quelque chose. Ils l'ont appelé ZAD, quoi. Voilà. Et après, ils sont appelés ZADistes. Moi, je trouve que c'était plus sympa que de s'appeler occupant, quoi. Parce qu'occupant, ça fait un peu militaire, quoi.
C'est vrai. Alors, une victoire a surgi de tout ceci puisque le projet de l'aéroport est abandonné.
Absolument. Oui.
Ça, on peut dire que c'est une victoire à 100%, c'est une victoire à la Pyrrhus qui coûte trop cher, c'est une demi-victoire, c'est que selon toi, c'est quel type de victoire on est ?
C'est une victoire à 100% si tu considères que pendant 50 ans, des gens ont lutté, d'abord des paysans tout seuls parce qu'ils exploitaient là, après ça, des gens autour d'eux, et après ça, des gens qu'on a demandé à qui on a demandé de venir aider. Donc c'est une victoire par rapport à ce qu'on appellerait l'aéroport, qui ne s'est pas fait. Bon, sauf que quand une lutte dure si longtemps que ça, il se passe des tas de choses socialement. Et là, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont défendu et qui se sont installés. Et sur des terres qui gênaient personne. C'était sur les zones de travaux et sur une ferme qui a été prise par le mouvement. Et sur lesquels il n'y avait pas de convention d'occupation précaire, puisqu'on avait négocié avec les paysans du Tour pour ne pas les signer. Et ils ont accepté de ne pas les signer. Donc, si tu veux, après, tu as une deuxième phase, forcément. Tu ne peux pas dire, parce qu'il n'y a plus d'aéroport, bah, tout le monde s'en va, chacun rentre chez soi ou va voir une autre lutte. Ou machin. Non, ces gens-là, ils sont là maintenant. Ils vivent là depuis des années, ils ont envie de... Ils ont monté des trucs, ils ont commencé à cultiver, ils ont commencé à construire, ils ont commencé à travailler d'autres boulots. Ils font même du social. Donc tu peux pas dire du jour au lendemain, allez, dehors, quoi. Et c'est normal qu'il y ait une deuxième phase à cette lutte et qu'on les soutienne, quoi.
Ouais. Selon toi, et ensuite on en reviendra à Calais pour parler de l'actualité, hein, de la ZAD, selon toi, qu'est-ce qui attend les zadistes au-devant de cette politique extrêmement répressive? Et qu'en est-il de l'opinion publique? Parce qu'on sait que voilà, la désinformation étant régnant, sans partage, c'est compliqué même, j'imagine, de produire de l'information critique et donc de situer où en sont les zadistes.
On a toujours, tout le long de cette lutte, on a toujours essayé de créer des rapports de force pour gagner du temps. Parce qu'en fait, on n'a jamais attaqué et puis gagné une bataille. On a toujours gagné du temps. Et on est arrivé à un moment où le gouvernement a dit qu'il arrêtait l'aéroport, sauf que, en fait, il se sera arrêté d'office puisqu'il n'avait pas demandé la reconduction de la déclaration d'utilité publique. Donc, elle tombait quelques jours plus tard de l'annonce. Donc, c'était un peu facile de faire une annonce et de jouer les écolos, quoi. Mais c'était mort d'avance pour eux. Voilà. Alors, il faut continuer à essayer de créer un rapport de force pour à nouveau gagner du temps et que, bon, alors sans doute il y aura négociation, sans doute il y aura des choses à faire pour que tout le monde s'en sorte, par le haut si possible. Voilà, nous on aimerait bien que le gouvernement perde directement, soit aplati à plat de couture, mais ce n'est pas le cas, ça ne sera jamais le cas. Donc, il faut essayer de sortir par le haut et que tout le monde s'en sorte.
Et d'où l'intérêt, justement, des tournées que vous opérez, voilà, pour informer les personnes.
Pour informer les gens.
Une dernière question encore, Camille. Selon toi, y a-t-il des intérêts publics, privés, des intérêts occultes qui mènent ces projets-là et qui font que voilà, ce projet, pendant toutes ces années, a eu cours et a failli, à un moment donné, même triompher?
Oui. Alors, je pense qu'il y a sans doute, effectivement, on peut parler... Il ne faut pas avoir peur des mots, hein. Il y a sans doute corruption, etc. Même si elle est passive, tout ce que tu veux, mais il y a des tas de politiciens qui en ont vécu de tout ça. Pourquoi ils étaient tous d'accord dans le département? C'est parce que, à mon avis, ça devait bien servir à... Enfin, il y a des choses qui devaient... Il y avait des retombées financières et autres qui devaient se produire. Après, pourquoi ça ne s'est jamais fait non plus? C'est parce qu'il ne faut quand même pas rêver. Tu ne fais pas un aéroport sur 800 hectares, parce que c'était à peu près la zone aéroportuaire, avec tout ce qui deux pistes, tout ce qui va, une tour de contrôle, des aérogares, des parkings, des bordels et des machins, pour 650 millions d'euros. Ça, c'est pas, faut pas rêver, c'est pas possible. Surtout dans une zone humide. Hein, et ils l'ont vu, les flics, hein, cet hiver, au début de l'attaque, là. C'est que quand tu rentres jusqu'au mollet dans la merde, parce que c'est mou en dessous, tu t'imagines bien que les coûts colossaux de la construction de ce truc-là, quoi.
Ouais, évidemment. Camille, venons-en à l'actualité. Donc toi, tu y résides, hein, tu étais encore il y a quelques jours à la ZAD. Qu'est-ce qui s'est passé? De quelle manière est-ce que ça s'est passé? Et où est-ce qu'on en est maintenant? Quelles conséquences
Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, au niveau des expulsions?
Au moment des expulsions. Ça a été un petit peu annoncé, c'est venu de manière totalement abrupte, de manière extrêmement brutale.
Ça a été annoncé, mais... On était plusieurs à avoir du mal à envisager l'ampleur de ce qu'ils avaient annoncé. Ils avaient fait un long travail avant pour nous un long travail médiatique pour, à travers lequel il disait il y a des gentils zadistes qui demandent qu'à cultiver des patates en paix et des méchants radicaux ultra-violents. On va virer les méchants radicaux ultra-violents. Donc forcément, là-dedans, nous, on est une ferme, donc on se sentait plutôt du côté méchant, enfin gentil zadiste, même si ce qu'on a toujours essayé de communiquer à ce niveau-là, c'est que cette distinction-là, elle est complètement aberrante, parce que, enfin, elle n'existe que dans la tête des médias. Donc voilà, enfin, elle n'existe pas, en fait, on est tous et au jardin et au conflit rapport de force, enfin, ouais. Voilà, quel qu'il soit.
Et là maintenant ça s'est calmé, ça, je veux dire, la période.
Bah alors ils ont attaqué en fait, le 9 avril. Ils avaient annoncé donc qu'ils commenceraient les opérations le 9. Ils sont arrivés vraiment en force le 9 à 3h du matin avec. Ils ont commencé à se déployer sur la route, il a commencé à y avoir des affrontements, des grenades qui explosent, des lacrymogènes, des arrestations. À 6h du matin, ils ont commencé à évacuer les lieux, détruire les cabanes. Les destructions, ils ont commencé à 8h parce que les ouvriers qui conduisent les pelleteuses travaillaient de 8 à 17h, puisque les flics savent pas conduire des pelleteuses. Donc dans la première journée, ils ont évacué une bonne dizaine de lieux de vie et détruit notamment celui où j'habitais. On a été, nous, hyper surpris. Ensuite, vu qu'on avait des animaux, ils nous ont laissé 10 minutes de répit, ce qu'ils n'ont pas laissé aux autres. Donc voilà, ils sont arrivés à l'entrée du chemin, ils nous ont dit « Bon, vous avez 10 minutes pour déménager ». On a demandé à ce qu'ils présentent les documents qui les autorisaient à procéder à l'extérieur. En cas d'expulsion du lieu où tu habites, il doit y avoir un huissier qui te remet en main propre l'avis d'expulsion. Et là, ils ont dit non. Il y avait un huissier, mais il n'avait pas les documents. Ils ont dit c'est la préfète qui les a, mais ils ne nous les ont pas fournis. Et voilà. Et donc, on a juste eu le temps de sortir les animaux. Et ensuite, ils sont arrivés, ils sont déployés dans le champ. Ils ont évacué tout le monde en une demi-heure. On était une petite centaine à résister. Et ensuite, ils ont mis 2 heures à descendre une vingtaine de personnes qui étaient montées sur le toit de la bergerie. Et après, dans le courant de l'après-midi, ils ont détruit les lieux. Voilà.
Okay.
Et donc ça, c'est pour la première journée d'expulsion. Ensuite, il y a eu 3 journées de destruction comme ça. Où ils ont été de plus en plus hauts dans la violence. C'est que là, le premier jour que je viens de raconter, ils étaient. Ensuite, ils ont été beaucoup plus violents dans l'usage des armes qu'ils faisaient, dans les arrestations, dans les coups qu'ils donnaient. Ils ont eu absolument aucun scrupule à noyer sous les gaz, que ce soit les jardins, les lieux de vie qui ne sont pas visés par l'expulsion et les personnes qui viennent, qui sont très clairement des gens de tout âge, des gens qui viennent en famille, des gens qui correspondent pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer du black bloc radical. Ils ont blessé plusieurs journalistes, notamment, tout ça. Voilà. Et donc à partir du troisième jour, ils ont stoppé les destructions, ce qui est une bien maigre victoire, parce qu'ils ont commencé à déblayer. Donc toujours venir avec la même présence policière, toujours autant d'armes, des tanks, tout ça, pour encadrer le déblayement, qui pour nous était aussi la perte en fait, de tous les matériaux de construction qui auraient pu nous permettre de reconstruire des habitats, particulièrement pour la bergerie par exemple, où c'est un hangar en métal et que malgré la destruction, il y avait quand même une bonne partie du hangar, enfin du métal qui était réutilisable ou tout ça. Donc, Et depuis, ils ont mis une dizaine de jours à tout déblayer. Depuis, on est dans une occupation militaire avec des contrôles, des fréquentes coupes de courant électrique ou à leur dos. Et ça touche pas du tout juste le périmètre de la ZAD. Ça touche tout le périmètre d'habitation autour avec les enfants qui habitent autour, qui font des cauchemars la nuit à cause des bruits de grenades, à cause des hélicoptères, les gens qui ont du mal à se déplacer, à se rendre au travail et tout ça, à cause des contrôles des policiers sur la route, et les gens qui habitent là, qui se font fréquemment couper l'électricité ou l'eau par les gendarmes.
Ok. Et là, est-ce qu'il y a une solidarité quand même qui s'est installée avec les personnes du voisinage?
C'est ce que je voulais dire, pourquoi les flics sont montés en tension et de plus en plus durs, c'est qu'ils pensaient peut-être qu'en une journée, environ quelques centaines de personnes qui étaient là, tout le monde allait fermer sa gueule et manque de chance, le lendemain, c'était plus quelques centaines, mais quelques milliers. Et puis le surlendemain, il y en avait encore plus. Et puis le surlendemain, il y avait plein de gens qui arrivaient pour aider ceux qui étaient au front. Alors ça, ça ne leur a pas plu du tout, quoi.
Il y a même eu, si j'ai bien compris, des ateliers de refabrication ou de réinstallation des choses qui étaient même pour certaines déjà un petit peu construites. J'ai notamment vu une image où une charpente était portée, qui était déjà prête et qui avait été dissimulée.
La charpente a été construite en trois jours pendant les combats.
En deux jours, la charpente,
pendant les assauts.
Ouais. Elle a été construite en deux jours pendant les assauts. Elle a été acheminée par une manifestation où il y avait 10 000 personnes. Elle a été transportée sur peut-être quoi, 5 km à travers les forêts, à travers les bois. Les gens portaient les poutres. Ensuite, ils n'ont pas pu. Donc c'était là, pour le Gourbi, qui était un lieu collectif où on faisait des AG, où on faisait le non-marché, où le lieu avait été détruit. Donc on voulait reconstruire le bâtiment pour ce lieu. Et la charpente, elle a été montée à proximité, mais on n'a pas pu aller à cause de l'occupation policière jusqu'au Gourbi. Mais dès que les flics y sont partis, on s'est retrouvés à 300 pendant plusieurs heures la nuit à porter un bâtiment en charpente magnifique d'une petite vingtaine de mètres carrés. On était 300 à le porter pour l'emmener à destination.
Symboliquement, voilà. C'est extrêmement fort.
Oui,
c'était...
Alors, est-ce que cette résistance...
Symboliquement, très très fort, tactiquement, un peu moins bon. Ben, tout le monde peut faire des erreurs.
Hein. Absolument, et c'est des erreurs qu'on apprend, blablabla. Peut-on dire que cette résistance est compacte ou y a-t-il quand même des dissensions à l'interne? C'est vrai que depuis l'extérieur, on a entendu que voilà, des gens allaient peut-être négocier en nom propre et que du coup, ils mettaient à mal un petit peu le collectif. Où est-ce que ça en est de ce côté-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu compliqué quand même, ou que la résistance, quoi qu'il en soit, elle est là, elle est implantée, elle est solide, enracinée, et qu'elle ne va pas s'arrêter?
La résistance, elle est là, elle est implantée, elle est solide. Mais je ne connais aucun endroit au monde où il n'y a pas de discussion. On n'a jamais été tous d'accord ensemble. Il a toujours fallu des tas de discussions, du tas de temps à passer pour arriver à faire des consensus, des choses comme ça. C'est la même chose. C'est parce que les flics sont là qu'il n'y a plus de consensus. Il faut toujours le consensus. Donc forcément, vous allez entendre des sons de cloche un peu différents. Mais il y a une chose qui est sûre et qu'il faut que les gens sachent, c'est que pour l'instant... Le gouvernement a demandé des choses auxquelles on a répondu sans y répondre. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, pour l'instant, le collectif résiste toujours et reste collectif. Ouais. Donc ça c'est très intéressant. Après, effectivement, il y a des gens qui ont mis des noms, des trucs, mais ça, ils sont couverts par un système qui a été mis en place qui refait que, du coup, c'est toujours le collectif quand même. Donc... Là-dessus, même les dissidents les plus durs d'un côté et les plus durs de l'autre, on est encore tous d'accord quand même.
Ils se rassemblent, ouais. On va doucement arriver au terme de cet entretien parce que effectivement, je pense qu'après vous êtes occupé. Mais j'ai encore deux, trois petites questions rapidement. Qu'en est-il des prises de décision collectives? Parce que Camille, tu l'as dit, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont là, même des fois plusieurs milliers. Alors voilà, comment est-ce que se passent les réunions, les AG? Y en a-t-il? Et puis, comment est-ce qu'on prend une décision lorsqu'il faut aller négocier avec un partenaire, lorsqu'il faut décider d'une action, d'un coup de poing, de quelque chose qui prête à conséquence? Voilà.
Il y a deux ans en arrière, devant l'évolution de la chose, et puis chacun discutant, tout le monde faisant ses pronostics, au bout d'un moment, on a dit, il faut qu'on commence à réfléchir, ça avait déjà fait un peu, mais c'était très accessoire, il faut qu'on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on veut que devienne cette zone quand l'aéroport, si l'aéroport ne se fait pas. À l'époque, on disait si l'aéroport se fait pas. Et donc, on a, à ces époques-là, il était créé une assemblée des usages, qui était une assemblée de plus, bien sûr, parce qu'il y avait déjà l'assemblée du mouvement, les assemblées de quartier, etc. Enfin, tout ce qui fait vivre la zone depuis 5-6 ans. Et donc, on a créé cette assemblée des usages, qui était légèrement différente des autres assemblées. C'est que dedans, on a créé des commissions pour étudier différents problèmes. Les problèmes juridiques, les problèmes réels d'usage, comment on réglerait nos problèmes internes de conflits, enfin tout un tas de sujets comme ça. On a créé des commissions qui, elles, ont beaucoup travaillé. Et à chaque assemblée des usages, si une commission avait quelque chose à dire ou à faire, elle envoyait une note pour dire « nous, on voudrait nous exprimer aujourd'hui parce qu'on a déjà travaillé sur ça, on a ça à proposer ». Et là, tout le monde participait après à la conversation. Et avec un processus interne qui avait été dicté interne, au bout d'un certain temps, s'il n'y avait plus de contestation, mais s'il n'y avait plus de gens qui voulaient amender ou changer des choses, le sujet était adopté.
D'accord.
Et on a avancé comme ça pendant 2 ans, enfin, très très vite à la fin là, parce qu'il faut avancer très très vite, mais c'est un peu toujours quand même dans le même esprit.
Okay.
C'est toujours collectif de toute façon.
Dernière question, parce que ça commence, comment vous soutenir, comment avoir ces informations-là, Radio Klaxon, le site internet
Zad.nadir.org.
Et puis donc Radio Klaxon, tous les communiqués, ça, pour ça, ça marche bien. Comment vous soutenir? Les gens, ils vont sur le site, ils peuvent faire un don, il y a besoin d'un petit peu de sous, de choses.
Oui, c'est facile, ça c'est facile. Quand il y a appel à don, ça, on voit que les gens l'entendent puisqu'on reçoit des dons, etc. Donc tout ça c'est facile. On a les vêtements, la bouffe, enfin il y a tout ce qu'il faut. Après, s'il y avait vraiment un nouveau gros problème qui se posait, si le 14 mai, par exemple, il y avait à nouveau une expulsion de masse, il faudrait que partout en France et voire ailleurs, si des gens pouvaient se mobiliser pour faire causer, ça serait, je pense, un gros point.
Ok. Merci beaucoup Camille et Camille. Bonne tournée. Et puis nous, on va écouter justement le contenu de cette tournée.
Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.